Ce programme vous est proposé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis.
Les grands débats.
Radio de la paix.
Bonjour à tous. Déconstruire la désinformation sur les réseaux sociaux, c'est le thème de notre 4e émission de débat Démocratie en progrès. Une émission réalisée et diffusée par Radio de la Paix en partenariat avec l'ambassade des États-Unis. La désinformation désigne la diffusion intentionnelle de fausses informations dans le but de tromper ou d'induire en erreur. Cela peut inclure des rumeurs, des mensonges ou des interprétations erronées d'événements ou de faits. Lorsque cette désinformation est faite sur les réseaux sociaux, elle devient virale, se propageant à une vitesse grand V avec des conséquences malheureuses, voire inarrêtables. C'est pour aider les populations à une meilleure utilisation des réseaux sociaux à travers la lutte contre les fausses informations que cette émission de débat est organisée avec des experts et acteurs des réseaux sociaux sur le thème de déconstruire la désinformation sur les réseaux sociaux. Mes invités sont M. Gérard Guédégbé, journaliste d'investigation, expert en communication et en développement. M. Donatien Kanga, expert en fact-checking, enseignant à l'Institut Polytechnique ISTC. M. Lassina Sermé, journaliste, président du Répressi, réseau des professionnels de la presse en ligne. Madame Rita Kwamina, président de l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire, juriste. Monsieur Stony, influenceur, web humoriste. Également, Monsieur Sui Kofi, journaliste, fact-checker à l'agence France Presse. L'émission Démocratie en progrès est présentée par Ben Diakité, réalisation Antoine Kouassi.
Radio de la paix, se parler, s'écouter, se comprendre.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous allons débattre du thème de construire la désinformation sur les réseaux sociaux. Bien avant, nous allons comprendre la définition, ce que c'est que, bien entendu, la désinformation et comment elle se propage sur les réseaux sociaux. Monsieur Lassinasser, vous êtes journaliste de la presse en ligne, vous travaillez sur la question. Vous, dans votre secteur d'activité en tant que journaliste, est-ce que vous avez souvent affaire à la désinformation et comment ça se présente dans vos médias?
Merci beaucoup, Monsieur Ben Diakité. Je voudrais d'abord remercier la Radio de la Paix qui nous associe à cette importante émission dans la mesure où elle va contribuer à aider les populations à faire la part des choses sur tout ce qu'il y a à consommer sur Internet, les produits du numérique, dont l'information. Et pour revenir à votre question sur la désinformation, c'est un phénomène que nous connaissons dans le milieu journalistique, donc le milieu professionnel. Donc ce qui donc est inquiétant, c'est que les journalistes, donc des professionnels des médias, donc de l'information, et qui parfois tombent dans le piège de la désinformation, ça doit amener à réfléchir. Et ça doit interpeller. Et qu'en serait-il donc pour les citoyens lambda qui ne s'y connaît pas en matière donc de traitement de l'information? Parce que nous avons fait par le passé une étude qui a prouvé que dans des médias donc animés par des professionnels donc de l'information, il y a parfois donc de la désinformation qui peut être faite de façon intentionnelle ou de façon non intentionnelle, selon donc la ligne éditoriale donc du média et selon également la période dans laquelle nous trouvons, parce qu'il y a des périodes qui sont plus ou moins favorables donc à la diffusion de la désinformation.
Nous allons revenir à vous tout à l'heure, Monsieur Lassina Sermé. Vous dites, en tant que professionnel journaliste, vous rencontrez la désinformation. Alors, Stony, vous êtes web humoriste, c'est-à-dire que vous travaillez sur les réseaux sociaux, vous faites des productions sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas journaliste, mais vous êtes influenceur, c'est le terme qu'on utilise. Est-ce que vous êtes confronté à la désinformation dans le cadre de votre travail? Et cette désinformation, comment elle se présente à vous?
Merci beaucoup, Monsieur Ben. Merci et bonjour à tous les invités. Oui, sur les réseaux sociaux, parce que dans notre travail, c'est principalement sur les réseaux sociaux. Après, les influenceurs, ce sont des personnes qui travaillent la majorité avec l'audience qu'ils ont pu acquérir, donc sur l'audience et aussi purement marketing. Donc, quand on sait que sur les réseaux sociaux, les algorithmes favorisent ou mettent en avant des informations qui sont sensationnelles, qui sont virales, donc certains d'entre eux, de façon intentionnelle, publient des informations qui ne sont pas forcément vérifiées, parce que c'est des informations qui peuvent choquer ou même qui peuvent amener des gens à réagir très rapidement. Donc justement, pour se faire beaucoup de likes, pour se faire beaucoup de vues, comme on le dit sur les réseaux sociaux, sans savoir forcément ce que cela crée. Mais je pense que de jour en jour, ça s'améliore, parce qu'on a les autorités aujourd'hui qui, il y a certaines personnes qui se sont expliquées devant la justice et tout, donc ça fait que les gens font beaucoup attention à ce qu'ils disent, mais n'empêche qu'il y a encore beaucoup de désinformation. Et nous, sur les réseaux sociaux, on a les informations qui nous viennent directement souvent des populations, des personnes qui viennent, qui te disent, moi je travaille dans telle ou telle entreprise, voici ce qui se passe. Voilà, tu fais confiance directement à la personne sans pour autant demander à l'entreprise ou aller vérifier, et tu publies l'information. Et puis par la suite, tu as peut-être l'entreprise qui fait un communiqué pour dire que non, c'est pas une bonne information, c'est faux et autres. Donc il y a des cas comme ça qui existent.
Madame Rita Akwamina, vous êtes la présidente de l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous aussi, dans le cadre de vos activités de blogueur, est-ce que vous rencontrez ce problème de désinformation? Comment vous gérez ça?
Okay, merci beaucoup, M. Ben Diakité. Merci à Radio de la Paix pour l'invitation. Oui, aujourd'hui, la question de la désinformation, on la retrouve à tous les niveaux, que ce soit dans les médias traditionnels ou dans les médias sociaux. Le constat est assez fulgurant, c'est qu'on fait face à une vague de désinformation. Et au niveau des médias sociaux, des blogs, cela aussi n'échappe pas aussi à cette situation, en fait. Donc, pour dire que oui, parfois, on fait face à de mauvaises informations, à de fausses informations qui circulent, mais il faut beaucoup mettre l'accent sur la formation. Comment on fait pour échapper à cela? C'est vraiment faire attention au contenu qu'on reçoit. Parce que lorsque Tony parlait, il disait que la plupart des personnes qui travaillent sur les médias sociaux reçoivent directement les informations de la population. Donc, très souvent, ce sont des informations crues qui ne sont pas traitées. Donc, c'est vraiment faire attention au traitement de l'information qu'on reçoit afin d'éviter de diffuser de fausses informations.
Monsieur Donatien Kanga, expert en fact-checking, enseignant à l'Institut Polytechnique. La question de la désinformation, on a vu que M. Sermé, journaliste professionnel, M. Tony, web humoriste, Mme Kwamina Rita Pascal aussi, qui est blogueuse, tous parlent de présence de désinformation. Mais on regarde que ces trois personnalités ont en commun les réseaux sociaux. Est-ce que ça veut dire que les réseaux sociaux riment avec désinformation?
Oui et non. Oui et non, oui, parce que en fait, les réseaux sociaux, les technologies numériques en général ont modifié un environnement en apportant une facilité de fabrication de l'information. Bon, facilité de fabrication des contenus. Donc aujourd'hui, tout le monde peut faire de la vidéo, tout le monde peut faire du son, tout le monde peut faire de l'écrit. D'ailleurs, on a l'intelligence artificielle générative maintenant qui vous suggère des contenus relativement bien écrits. Donc ces technologies-là ont fait que ce n'est plus difficile de créer quelque chose qui ressemble à de l'information. Deuxième chose, c'est le potentiel de viralité. C'est-à-dire que vous pouvez être assis à Abidjan, inventer quelque chose et puis toucher le monde entier. Et ça, c'est les réseaux sociaux qui permettent cela. Donc, ces deux facteurs mis ensemble donnent l'impression qu'il y a plus de désinformation qu'avant. Donc, c'est pour ça que je dis oui et non. Oui, parce que on a un environnement qui fait que ça devient plus facile de créer de la désinformation et plus facile de faire circuler cette désinformation. Mais non, parce que, je l'ai dit, la désinformation rime avec l'homme. En fait, le mensonge rime avec l'homme. Par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, l'un des changements de paradigme dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est parti d'une désinformation. Les Alliés ont désinformé l'armée allemande de sorte qu'elle a baissé la garde sur la plage de Normandie où le grand débarquement a eu lieu. Mais il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas d'intelligence artificielle générative. Et ça marchait. Même pour notre pays, pour revenir tout près de nous, aux années 2000, moi je raconte toujours cette année, il y a une désinformation qui a circulé disant que l'eau produite par la Sodexo avait été empoisonnée. À cette époque, il n'y avait pas encore Facebook tel que, mais ça a pris tout le pays. Donc oui, on peut avoir le sentiment que la situation est nouvelle, mais c'est une situation qui est plus... En fait, il y a un contexte qui est changeant, qui rend la situation un peu plus complexe et nous donne l'impression qu'on est submergé. Mais ce n'est pas un phénomène nouveau. Dans ce sens, donc, on a des ressorts pour y faire face et il nous faut justement prendre conscience de ce phénomène et de sa complexité nouvelle avec les technologies pour mieux préparer le citoyen. Et c'est en fait là qu'il y a le point, c'est pas tant la désinformation, mais c'est le rapport du citoyen, le rapport de nos sociétés, de nos organisations face à la désinformation. C'est là qu'on n'est pas encore très près. Sinon, la désinformation, elle a toujours existé, en fait.
Monsieur Gérard Bédégué, vous êtes journaliste, spécialiste en communication et développement. Pourquoi devons-nous avoir peur de la désinformation? Pourquoi c'est inquiétant la désinformation qui est diffusée sur les réseaux sociaux? Pourquoi il faut se prémunir contre ça?
D'abord, faisons un peu de pédagogie, si vous permettez. La question de la désinformation, elle est catégorisée plus ou moins. Parce que ce qui rend la désinformation, je veux dire, beaucoup plus critique, c'est l'élément intentionnel. Il faut dire que la désinformation, c'est d'abord un projet. Un projet, ça suppose qu'il y a un auteur qui a pensé et qui vise des objectifs. Il veut atteindre quelque chose, c'est-à-dire ne serait-ce que réussir à impliquer, pour ne pas dire faire paraître quelque chose qui ne l'est pas, pour que cela puisse produire peut-être l'effet de ce qui l'attend. Pour dire que l'élément intentionnel est très très important. À côté, il y a la mésinformation qui est le résultat de l'erreur ou bien d'une faiblesse de l'esprit qui fait peut-être qu'on peut diffuser une information de façon malencontreuse. Et puis maintenant, il y a la malinformation qui, au niveau de la catégorisation, vise à utiliser une information qui est de source bonne, mais qui est trafiquée à dessein. Donc vous voyez toujours qu'à chaque fois, il y a un élément, pour ne pas dire actif, d'un auteur qui veut ne serait-ce que créer soit une certaine émotion ou peut-être dupliquer un certain nombre de faits sociaux. Et vous abordez la question, la dimension sociale, qui pour moi est la raison pour laquelle il faut se préoccuper de la désinformation. Parce que la désinformation vous détourne du chemin qui doit être, je vais dire, le chemin normal. Et l'idée de détourner du chemin normal, c'est de faire en sorte que la société puisse prendre des décisions sur des situations inexactes, qu'on appelle de fausses informations. Donc, on doit s'en préoccuper parce que si on vous dit, par exemple, pour des questions de santé, que le vaccin produit, au lieu de guérir ou bien de prémunir votre enfant, tend peut-être à le rendre handicapé, la décision que vous prenez en tant que père de famille, c'est de vous dire non, je m'abstiens pour le moment, au moment peut-être que le virus puisse se propager dans la société. Donc vous voyez, ne serait-ce que sur des questions de vie commune, la désinformation peut bouleverser, je vais dire négativement, le bon fonctionnement de la société. Ne parlons pas des questions liées au maintien de l'ordre, parce que les moments critiques où la désinformation devient, je vais dire, a de bons clients, c'est souvent dans les moments critiques de notre histoire, que ce soit au moment politique, pendant les élections, avant ou après, ou pendant. On utilise beaucoup plus la désinformation pour des manipulations d'ordre politique. Donc l'idée de s'en préoccuper, moi je pense que c'est pour... D'abord, davantage consolider la stabilité de nos sociétés, ça c'est un, mais faire en sorte que les citoyens aient une information juste et qu'ils soient autonomes de décider librement. Maintenant, je reviens juste sur la question abordant un tout petit peu la dimension soif de l'information. Il faut dire que nous sommes dans une société où les citoyens ont soif de l'information. C'est-à-dire, ce qui touche, ce qui attire, ce qui rend la désinformation attractive, c'est son côté esthétique qui rend l'élément naturel plus beau que d'habitude. Donc, c'est une forme de maquillage de faits réels ou de faits habituels qui fait que les gens ont tendance à cliquer sur quelque chose. Ça veut dire que, c'est pourquoi j'ai parlé de projet, les gens qui sont dans la désinformation sont des professionnels. Il ne faut pas qu'on se leurre. C'est un métier, c'est quelque chose qui fait réfléchir des gens. Et bon, travaillant avec les chapelles politiques, je sais un peu de quoi je parle. Parfois, on met en branle un certain nombre d'éléments pour pouvoir créer une sorte de panique dans les camps adverses. Et pour ça, on monte des scénarios. Et c'est pour vous dire que nous sommes dans une situation où, de plus en plus, la société est prise en otage par des projets ou des agendas politiques, ça peut être sociaux et même économiques, même ne serait-ce que pour susciter la consommation d'un produit, on peut lancer une campagne de désinformation pour discréditer un produit adverse. L'environnement semble un peu plus vaste que ce que nous pensons et qu'aujourd'hui, il faille se préoccuper de façon beaucoup plus structurelle et maintenant former davantage les populations à comprendre pour eux-mêmes, pour elles-mêmes plutôt, excusez-moi, l'intérêt de se préoccuper du contenu de l'information qu'elles consomment. C'est d'abord pour elles. Il faut qu'elles comprennent le risque qu'elles prennent en consommant peut-être quelque chose qui ne fait pas l'objet d'un petit ami.
Stony, je reviens à vous. Je veux parler de la désinformation. Est-ce que ça impacte votre travail réellement?
Moi, je mets pas une dose de désinformation dans ce que je fais. Donc, parce que j'ai bien conscience que je suis aussi beaucoup suivi. Donc, ça veut dire que même l'information la plus banale, elle peut vite se transformer en autre chose. Donc, pour ne pas moi-même avoir des problèmes, je fais beaucoup attention. Et c'est pour cela que, généralement, quand il y a une information, on n'est pas sûr, on essaie de regarder sur des sites qui sont bien connus ici en Côte d'Ivoire, qui ont une notoriété. Même quand on n'est même pas encore sûr de ça, on préfère même ne même pas publier. Quand vous dites, est-ce que ça envoie un peu plus de... Je sais pas, en fait, on n'a pas besoin de ces informations-là, moi en tout cas personnellement, pour me faire de l'audience. Au contraire, si les gens aujourd'hui me suivent et autres, c'est parce qu'ils savent que dans ce que je fais, j'essaie toujours de rester plus proche de la vérité dans les informations que je véhicule. Après, moi, mon intention, mon but, c'est pas de remplacer le journaliste, c'est pas de venir donner les scoops ou les informations, non, c'est pas ce que moi je fais. Moi, je crée du contenu sur des choses qui intéressent la population et autres. Maintenant, il y a des professionnels de l'information qui sont là, qui donnent l'information et autres. Nous, on reprend souvent chez eux. Souvent, quand on les a de façon, je vais dire, exclusive, moi, personnellement, je ne les diffuse pas. À part si c'est des choses, bon, je sais que ça va pas déranger autres. Je vais vous prendre un exemple très simple. Il y a les Miss Côte d'Ivoire qui devaient aller en France et puis elles sont arrivées à l'aéroport, elles n'ont pas pu voyager et puis voilà, dans l'équipe là, il y a une qui appelle pour dire que ouais, on n'a pas pu avoir notre visa, ils nous ont refusé le visa, nanana. Moi, je suis à la maison, on m'appelle à minuit pour m'expliquer ça. Moi, je suis à la maison, je sais même pas qu'elles voyagent, tout ça, qu'elles sont à l'aéroport. Non, j'ai cette information. On me dit, non, il faut que tu en parles parce que c'est pas bien, c'est une institution quand même. On peut pas leur refuser comme ça le visa. Donc, moi, je pose la question, vous êtes sûr qu'on leur a refusé le visa? Elle dit, oui, mais les Miss, là, elles sont là. Voilà, parle avec, elle confirme, tu vois. Et puis après, tu publies, tu te dis, bon, voilà, c'est pas normal qu'on refuse le visa aux Miss. Il n'y a même pas 10 minutes après, le consulat de France qui m'appelle, qui me dit, ah, on a vu l'information, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Moi, je ne sais pas. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Ils ont dit, non, demain, on va vérifier. Donc, vous voyez déjà comment ça prend de l'ampleur 10 minutes après. Et puis, le lendemain, je pense, après, il y a un communiqué de commissaire qui dit qu'ils n'ont jamais refusé de visa et que c'est juste un retard et que, voilà, c'est une fausse information, c'est fake news et que, voilà, c'est juste un retard. Ça ne peut pas considérer ça un refus de visa. Donc, vous voyez, en fait... Pourquoi aujourd'hui, même si on a des infos, parce que les gens même qui vont venir te donner l'information, demain quand ça se transforme, ils vont te dire qu'on n'a pas dit ça. Donc moi, généralement, quand quelqu'un vient me donner son affaire, il dit publie et puis il prend pour mettre.
Serbe, Lassina, sur la question, on a vu que Stony a expliqué un peu, eux qui ne sont pas forcément des professionnels de l'information, mais vous êtes des professionnels de l'information, c'est qu'à la base, vous êtes des journalistes et vous publiez sur les réseaux sociaux. Et vous nous dites, également chez vous, il y a la désinformation qui intervient par moment. Alors, comment chez des professionnels, on peut rencontrer la désinformation?
Merci beaucoup Ben pour cette importante question. Vous voyez, tout à l'heure, le collègue sur le plateau a parlé de catégorisation de la désinformation. La désinformation en elle-même, c'est la grande famille donc de la désinformation, des fausses informations, des fake news, etc. Mais dans cette grande famille, il y a des sous-familles, voyez-vous. Vous allez trouver plusieurs catégories, il en a cité quelques-unes. Et chez les journalistes, en règle générale, ce ne sont pas de la désinformation faite de façon intentionnelle pour tromper. Quoique cette catégorie peut exister. Quand on va aller sur le terrain politique, vous allez voir des journaux qui sont à obédience politique, qui vont avoir donc des laboratoires pour travailler en sorte à perturber donc l'adversaire. En ce moment, on pourra trouver donc la désinformation au sens propre du terme, donc qui a pour objectif in fine de tromper, donc de façon intentionnelle, induire tel ou tel en erreur. Sinon, de façon naturelle, le journaliste ne fait pas sciemment pour tromper son lectorat ou bien ses téléspectateurs ou bien ses auditeurs ou bien ses followers, etc., etc. Si on a donc un pendant sur les réseaux sociaux. Mais ça peut arriver, mais en ce moment, c'est pas de la désinformation avec une intention, pardon, malveillante qui sert à donc induire en erreur.
Monsieur Sui Kaofi, vous êtes journaliste, vous êtes fact-checker, c'est-à-dire que vous essayez de travailler sur la vérification de l'information. Monsieur Lassina Sermé l'a dit, il dit que c'est vrai, les journalistes déjà ont des méthodes en interne pour vérifier ces informations, mais malgré qu'ils aient ces méthodes, les sources, là d'où viennent ces informations, parfois il y a de quoi à redire. Comment dans le métier on rencontre ces problèmes et quel est le protocole, le mécanisme qui est mis en place pour qu'on sache que ce qui est dit, c'est vrai?
Il y a deux tendances à comprendre quand on parle aujourd'hui de fausse information. Et ces deux tendances sont les manipulations qui sont faites de l'extérieur, ce qu'on appelle les phénies, c'est-à-dire que l'information qui est manipulée par une puissance étrangère, un pays, face à un autre. Et puis nous avons la désinformation, je dirais, domestique, nationale. Alors, je vous donne un autre exemple. Vous avez en Côte d'Ivoire une page, on n'a jamais su peut-être qui est derrière, qu'on appelle Chris Yapi. Voilà, on n'a jamais su quel est l'acteur derrière ce fameux Chris Yapi. Mais il suffit que cette page-là lance une information qu'automatiquement tout le monde est paniqué dans la ville. Ça, c'est un acteur, qu'on peut dire un acteur national, qui alimente un peu la désinformation au plan, je dis, domestique. Mais vous avez des influences qui sont plus grandes. Par exemple, quand vous prenez un pays comme la Russie, qui a été taxé de manipuler l'information à l'échelle internationale à travers plusieurs rapports. On le disait tout à l'heure, aujourd'hui, la désinformation, c'est une industrie qui représente des millions d'euros. Et moi, je dis que nous, les fact-checkers, on ne fait pas le poids en termes de nombre, en termes de moyens. Parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont dédiées à la construction de fausses informations que de personnes qui déconstruisent cette information. C'est ce qui rend le combat inégal et assez compliqué. Parce que, je vous donne un exemple très banal. Un journaliste comme Sermé va sur un site d'information, il va récupérer une information sur un site qui, en apparence, est un bon site, est un vrai site. Je vous donne un exemple banal. Des gens se sont fait escroquer par... Je ne ferai pas de publicité. Des clients d'une grande banque se sont fait escroquer simplement parce que la manière dont le A était écrit dans le site internet en bâton, dans l'original du site, était écrit en italique dans un autre site internet. Quelqu'un a utilisé tout simplement de l'intelligence artificielle pour cloner le site de cette entreprise. Et donc, ils ont escroqué tous ceux qui sont venus faire des transactions sur ce site. Voyez, souvent, c'est ce qui rend complexe l'exploitation de l'information donnée aux journalistes. Vous allez sur internet, vous faites une recherche, vous ne faites pas attention à l'URL, vous êtes journaliste, vous copiez une fausse information sans vous en rendre compte. Et c'est lié à quoi? C'est lié même à la formation des hommes de médias à apprécier l'outil qu'est Internet. On a fait beaucoup de formations, mais on a encore des personnes... Moi, j'ai entendu un aîné dans la profession qui me dit la fois dernière, « Ah, mais suis, il paraît que maintenant, les sites Internet, on doit les payer. » Je dis, « Site Internet, comment ?»« Non, oui, mais Gmail nous envoie un message pour dire qu'on doit donner un certain montant parce qu'on a utilisé tout le stockage de notre site Internet. » J'ai dit, « Grand frère, c'est pas site Internet, c'est adresse mail. » Vous voyez que le temps passe, mais on a encore beaucoup de formations, beaucoup de choses à corriger en matière d'utilisation d'Internet. Donc, quand quelqu'un n'est pas bien formé, même s'il est professionnel, il a des problèmes pour apprécier la source de l'information. Et derrière, quand vous balancez une mauvaise information en tant que confrère, c'est que d'autres confrères viendront déconstruire cette fausse information. On entend beaucoup de journalistes professionnels qui disent « Oh, mais vous êtes en train de gâter notre nom. » Non, l'objectif du fact-checker, ce n'est pas de gâter le nom d'un autre collègue, mais c'est de faire en sorte que la vérité soit sue par le public. Et déconstruire l'information, c'est une démarche qui est assez longue et qui appelle, bien entendu, à une recherche de la crédibilité autour de cette information qui est donnée.
Monsieur Donatien Kanga, vous qui êtes enseignant-chercheur, la vérification de l'information, parce que si on doit vérifier une information, ça veut dire que l'information, qu'elle soit vraie ou fausse, a déjà été donnée. Donc les dégâts ont été peut-être constatés. Quel est l'intérêt aujourd'hui du fact-checking? À partir du moment, quand c'est une mauvaise information, elle aurait déjà pénétré les différents cercles. Pourquoi vérifier une information qui a déjà fait son dégât. Est-ce que ce n'est pas le médecin après la mort, le fact-checking réellement?
J'ai deux réponses que je donne en général quand on me pose cette question. Première chose, déconstruire une désinformation, une information malveillante, un contenu erroné, peu importe la classification, reste utile, ne serait-ce que pour laisser une trace de la vérité, pour dénoncer le travail de falsification. Ça, c'est un premier intérêt. Et c'est nécessaire, c'est utile. Deuxième chose, c'est que le fact-checking dans ces productions va fonctionner un peu comme une sorte de vaccin. C'est-à-dire que, en fait, en attirant l'attention que ce contenu est faux, alors à moyen et long terme, on est en train de dire aux citoyens qu'attention, tout ce qui circule n'est pas parole d'évangile. La preuve, ce message auquel vous avez cru était faux, en fait. Et voilà pourquoi il était faux. Et ça, ça permet d'éduquer et d'entretenir une certaine éducation face à l'information qui fait que si demain, la personne fait face à un message, il a tendance à être alerté pour dire « Attention, la dernière fois, j'ai cru et une semaine plus tard, on m'a dit que j'ai relayé une fausse information. » Je peux prendre le recul. Pour moi, le fact-checking a ce rôle de freiner l'impact de la désinformation à chaud, même s'il vient après que la fausseté ait circulé. Mais son deuxième avantage, c'est dans l'éducation du citoyen, à lui faire prendre conscience de l'environnement dans lequel on est, de circulation de la désinformation. Ça, c'est la réponse directe. Et ensuite, la question amène aussi aux enjeux de la lutte contre la désinformation. Parce que on a tendance à mettre toute la responsabilité sur les fact-checkers, mais les fact-checkers à eux seuls ne peuvent pas résoudre le problème de la désinformation. Et celui l'a démontré de très belles manières. On a, si vous prenez les fact-checkers contre l'industrie de la désinformation, vous avez des individus contre une industrie. Donc, les individus à eux seuls, et même si c'est des médias, à eux seuls ne peuvent pas résoudre ce problème, puisque c'est un problème sociétal. Donc, il nous faut justement envisager des actions au niveau des autres angles d'attaque. Un autre angle d'attaque, c'est l'éducation. La désinformation prend dans nos pays, surtout en Afrique subsaharienne, parce qu'on a des citoyens qui ne sont pas éduqués à l'information. On a grandi dans des sociétés où, à partir du moment où ça sort à la télé, c'est la vérité. À partir du moment où on voit à l'écran, c'est la vérité. Donc, même si, je lui ai dit, c'est grossier, mais le simple fait qu'on ait une vidéo, c'est déjà suffisant pour dire que c'est vrai. Vous lui dites, c'est faux, il vous dit, j'ai vu ça à la télé, c'est fini, il n'y a plus débat. Donc, ça pose la question de l'éducation aux médias, des citoyens de façon générale, et des citoyens, du plus petit citoyen à l'élite. Parce qu'on se retrouve souvent à voir que nos gouvernants même commettent des erreurs grave vis-à-vis de l'information. Quand vous vous retrouvez avec des ministres de la République qui se font manipuler, moi je donne toujours cet exemple de la COVID, de ce ministre qui nous dit que 14 Italiens ont circulé dans le pays, alors qu'à la vérité, il n'y avait même pas d'Italiens qui n'étaient en illégalité. C'est au plus haut niveau de l'État. Donc l'éducation du citoyen face à l'information, c'est un axe important. Hier, je t'ai mis ça pour montrer un peu. Hier, j'étais avec des élèves du collège et du lycée. On me dit de leur parler de fact-checking, comment distinguer le vrai du faux. Je me demandais comment j'allais aborder le sujet. Le sujet est tellement technique. Mais j'ai eu une inspiration après les échanges même avec eux. C'était simple. Je leur ai appris qu'est-ce qu'une information. C'était aussi simple. On s'est dit, bon, pour savoir qu'un billet de 10 000 est faux, qu'est-ce qu'on fait? Ils m'ont dit, non, on va le scanner, on va voir le filigrane, on va aller à la BCO. En fait, on va rechercher les caractéristiques d'un bon billet. Pas besoin d'étudier toutes les catégories de faux billets. Pour lutter contre les faux billets, il faut savoir simplement quelles sont les caractéristiques d'un bon billet. Donc, pour lutter contre la désinformation, il faut savoir qu'est-ce qu'une information. À partir du moment où je sais ce qu'il y a une information, quand quelque chose ne ressemble pas à l'information, même si je ne peux pas vérifier avec les outils dessus, même si je ne peux pas vérifier avec l'expertise des CERME, je peux au moins être prudent parce que ça, là, ça ne ressemble pas à une information. C'est ça, en fait.
Merci beaucoup, Donatien Kanga. Nous sommes à Radio de la Paix. Nous suivons donc notre émission « Démocratie en progrès ». Et le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est « Déconstruire la désinformation sur les réseaux sociaux ». Monsieur Gérard Guédégbé, vous avez entendu comme nous les explications de Monsieur Donatien Kanga sur la difficulté qu'il y a à lutter contre la désinformation. Au regard de tous ces défis, on a parlé des gens qui devraient être formés, on a parlé des moyens qui étaient disposés. Est-ce qu'il faut réglementer l'utilisation de l'Internet pour pouvoir lutter efficacement contre la désinformation?
D'abord, une petite parenthèse. Le fait pour la population de croire à l'information qui est diffusée à la télé, ce n'est pas de leur faute. c'est de la défaillance de l'industrie médiatique. Il faut qu'on se comprenne. Le problème, c'est que les médias doivent rester des références de l'information juste. Et donc, il faut d'abord se dire que jusqu'à demain, quand ils prendront un journal, ils ne vont pas trop se poser des questions. Donc moi, je voudrais renvoyer la question à nous, professionnels, pour dire qu'est-ce que nous faisons pour continuer d'assumer notre mandat avec vérité et crédibilité, d'abord. Parce que c'est des petits biais que je vois sur la question de l'éducation aux médias. Moi, je voudrais que l'éducation aux médias ne rend pas forme de psychose permanente aux populations par rapport aux plateformes de diffusion que nous avons, qui sont traditionnelles plus ou moins, c'est-à-dire la radio, la télévision, la presse écrite et autres. Nous devons davantage travailler pour redonner à ces médias-là leur crédibilité pour que les gens n'aient pas trop à se poser des questions. Parce que si la question de l'éducation aux médias se transforme en une forme de faire du citoyen quelqu'un qui est devenu un peu psychotique, c'est-à-dire à chaque fois qu'il trouve une information, il faut être dans la psychose, ça pose un problème. Il faut juste développer l'esprit critique et puis faire en sorte que ce citoyen-là puisse se dire, bon, est-ce qu'il y a une autre manière de faire cela et quand c'est trop beau, des choses comme ça. Sinon, je pense que les médias qui constituent l'outil important de processus démocratique, quand ils sont dévoyés, c'est fini. Donc, il y a un véritable problème à faire pour restaurer un peu les médias dans le rôle, le mandat qui est le leur, c'est-à-dire donner une information. Pour répondre à votre question, moi, je pense que on doit mettre un accent particulier sur la régulation, mais avec les organisations professionnelles. Le problème, c'est que si les répressions existent, c'est pour faire ce qu'on appelle une sorte de nettoyage dans l'espace de tout ce qui est média en ligne, par exemple. Donc, moi, je dis la régulation, si on prend le cas de la ACA, qui fait une collaboration intelligente avec les organisations professionnelles, les blogueurs, les fact-checkers, va davantage permettre maintenant de trouver un substrat qui est consommable et qu'on peut vendre. En ce moment, on va maintenant déconnecter la population de cette psychose de ne croire à rien. Parce que ça posera un peu un problème. Donc, on va davantage voir si, avec les organisations professionnelles, les académiciens aussi, trouver un moyen, les professionnels, trouver un moyen pour assainir un tout petit peu, pour maintenant commencer par certifier. C'est-à-dire que la ACA peut publier chaque année une liste, par exemple, de journaux ou bien de médias en ligne ou de professionnels qui ont peut-être, ne serait-ce que cette capacité-là, à donner une information de qualité. En ce moment, vous allez voir que si on met le volet éducation dessus, le public va rapidement démêler du vrai du faux et ça va aussi crédibiliser davantage le travail que font les blogueurs et autres.
Stony, vous, dans votre cas, quelles sont les dispositions pratiques que vous mettez en place pour pouvoir lutter contre la désinformation, pour vous protéger vous-même et crédibiliser votre travail?
Pas de technique particulière, mais aller juste à l'information, aller sur le terrain. Je me rappelle, quand j'étais rentré en Côte d'Ivoire en 2020, il y avait la crise de l'augmentation du prix de litre de l'huile. J'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux et autres. Moi, j'ai juste décidé d'aller à l'information. Donc, pas une enquête, mais une immersion. Je vais à la rencontre des acteurs dans les marchés. Je demande combien ça coûte. Je fais un petit reportage là-dessus. J'appelle au ministère, je demande, je me renseigne et je publie la vidéo. Donc c'est une vidéo qui montre la réalité. Je n'enlève rien, ce sont les acteurs qui parlent. Et à chaque fois qu'il y a une information qui vient sur les réseaux sociaux, lorsque vraiment ça m'intéresse, j'essaie de faire pareil. Il y a eu récemment le cas avec les chambres universitaires, avec la FECI, on a fait pareil, on est allé au campus, sur le campus universitaire pour entendre les gens, on le fait sur beaucoup d'événements, donc c'est ce que moi personnellement je fais, parce que je sais bien que, en tout cas sur les réseaux, lorsqu'il y a des informations qui sont un peu sensibles, tout le monde surfe là-dessus, surtout dans notre domaine, tout le monde se joue les connaisseurs. Et pour ne pas discuter d'un sujet que peut-être je maîtrise pas, je préfère donner l'information comme elle vient ou d'où elle vient. Donc en fait, moi, c'est ça ma technique.
Lorsque vous avez publié quelque chose et que vous êtes interpellé là-dessus, du genre non, ce n'était pas ça, cette information n'est pas bonne, qu'est-ce que vous faites? Comment vous réagissez?
C'est rarement arrivé sur les vidéos, mais sur les informations écrites, par exemple, quand on donne, il peut y avoir
des cas où on dit que c'est une fake news. On a même des fake news qui ont été reprises par des médias que je veux pas citer, mais qui étaient références pour nous, que nous aussi on a partagé. Et puis après, on vient, on s'excuse auprès de nos abonnés. On leur dit, voilà, c'était pas une bonne information. Voici la bonne information. Donc on rétablit la vérité en publiant la bonne information. Mais vraiment sur les vidéos, on a rarement ce cas-là, puisque comme j'ai dit, les vidéos, c'est un contact direct. Donc après, s'il y a quelqu'un qui veut faire un démenti ou autre, peut-être qu'il aura à parler encore dans une autre vidéo pour essayer d'apporter lui son élément de réponse.
Monsieur Lassine Sermé, vous êtes journaliste et vous nous avez parlé dès le début de notre émission qu'effectivement aussi dans votre milieu, on rencontre aussi parfois la désinformation, soit de façon intentionnelle ou non intentionnelle. Quelles sont les dispositions que vous prenez, et vous, pour lutter contre ça?
Gérard l'a dit tout à l'heure, parfois il y a le manque de rigueur au niveau donc de la profession. Il y a 2 ou 3 semaines de cela qu'un journaliste s'est fait prendre comme ça. Il y a une fausse information, donc des manipulateurs ont essayé de traficoter et trafiquer donc les signatures de 3 ministres et faire sortir un communiqué pour dire que le gouvernement ivoirien vient de suspendre une 20aine de produits vivriers. Et puis bon, il rédige son article, il publie. 30 minutes après, il est appelé par l'un des ministres concernés lui-même de vive voix pour dire non, c'est une fausse information. En réalité, notre signature a été donc trafiquée, reproduite, etc. Voyez-vous, c'est un professionnel aguerri qui a plus d'une 20aine d'années de pratique journalistique. Il s'est fait prendre, voyez-vous. Donc, de plus en plus, avec le développement de ces outils de technologie, il nous faut de plus en plus être très rigoureux. Stony l'a dit tout à l'heure, quelqu'un l'a appelé de l'aéroport pour dire telle situation. Bon, lui, de bonne foi, il croit en cette personne, au regard donc de leur amitié, etc., etc. Mais en réalité, il s'est fait manipuler, c'est après qu'il s'en rend compte. Donc, il faut beaucoup faire attention. Quel que soit celui qui donne l'information, il faut toujours recouper l'information. Et ça, c'est l'essence de notre métier du journalisme. Donc, j'ai une information. Avant toute diffusion, il faut que je m'assure du respect d'un certain nombre de processus, notamment donc la vérification, le recoupement de l'information. Et à notre sein, nous avons l'Observatoire des médias numériques de Côte d'Ivoire que nous avons créé pour nous. Il faut d'abord mettre l'accent sur l'autorégulation. Tout à l'heure, j'ai rappelé l'exemple de l'AAK, de l'ANP, etc., qui sont donc des structures de régulation. Donc ça, c'est différent de l'autorégulation. L'autorégulation, ça, c'est en interne. Voyez-vous, après, on va dire non, le régulateur a pris des mesures, donc c'est pour bâillonner donc la liberté d'expression. Mais avant d'arriver chez le régulateur, si l'autorégulation marche, je pense que on va donner moins de travail au régulateur. Donc il faut mettre beaucoup l'accent sur l'autorégulation, et ça, nous en faisons notre cheval de bataille, et nous faisons de la médiation entre donc des acteurs. Récemment, il y a un aîné du métier qui s'est senti donc diffamé par un autre confrère, tout ça, et c'était compliqué, il voulait aller à la justice, mais notre structure a fait la médiation, et les deux se sont compris. Et celui qui a été accusé donc de diffamer a rectifié l'information, etc. Donc je pense qu'il faut mettre l'accent sur l'autorégulation en interne dans le milieu professionnel et avoir cette culture de rigueur. Une fois ça c'est fait, je pense que le journalisme aura toujours droit de citer. Encore une fois, on pense que bon, les influenceurs sont venus pour nous ravir la plante. Non, si nous restons crédibles, c'est nous la bonne source d'information. Stone l'a dit et je suis très heureux qu'il le dise. Aujourd'hui, quand il doit diffuser une information, il y a des sites qu'il considère comme des référents sur lesquels il va s'assurer que ces sites parlent de cette information avant de pouvoir la diffuser, ou il prend directement l'information sur ces sites avant diffusion. Ça veut dire que le journaliste a encore une fois son rôle dans la société. Il faut qu'on soit toujours rigoureux.
Merci beaucoup, monsieur Lassine Sermé. Avec vous, madame Rita Kwamina, est-ce que vous, à votre niveau, vous avez des dispositions pratiques qui sont prises pour régler cette question de désinformation?
L'activité de créateur de contenu, blogueur, influenceur attire du fait que ça apporte la notoriété, ça apporte aussi une certaine visibilité, mais il y a également aussi l'aspect financier aussi à prendre en compte. Donc aujourd'hui, tout le monde veut devenir blogueur, veut devenir créateur de contenu. Il y a cette facilité en fait à faire cette activité-là. Et malheureusement, il y a beaucoup de bébés galeuses. La chance que nous, on a au niveau de l'association des blogueurs, et c'est justement pour cela qu'on invite tous ceux qui sont créateurs de contenu, blogueurs, influenceurs, à adhérer à l'association, on met beaucoup l'accent sur la formation. Donc vous convenez avec moi que ces blogueurs, influenceurs qui sont vus interpellés, que ce soit par la PLCC ou par la ACA, qui est l'autorité régulatrice, il n'y a pas des membres de l'association des blogueurs. Pourquoi? Parce que nous sommes formés, nous sommes outillés, et avant de publier nos articles sur nos différents blogs, on prend le temps de faire un fact-checking avec les différents outils qui existent, parce qu'on travaille avec beaucoup également de fact-checkers qui ont pris le temps de nous outiller sur ces questions-là. On prend le temps de vérifier ces informations-là avant de les diffuser sur nos blogs ou sur nos réseaux sociaux. On n'a pas un mécanisme en notre sein qui nous permet de nous autoréguler, mais vu que les membres de l'association sont déjà formés, pour mémoire, hein, on n'a pas encore fait face à un cas où un membre de l'association des blogueurs a produit une fausse information, en fait. Donc, pour moi, c'est vraiment mettre l'accent sur la formation, parce que lorsque le créateur de contenu est suffisamment outillé, il fait attention au contenu qu'il publie. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est ce qu'on fait au niveau de l'association.
La Sinesse Hermé,
ça fait un peu débat. Au niveau de répression, nous sommes dit qu'à un moment donné, il faut que les blogueurs, en tout cas, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Souvent, on a tendance à vouloir donc se substituer aux journalistes, qui est un métier. Donc si on veut aujourd'hui que on considère le blogueur ou alors l'influenceur comme un corps de métier, il faut faire ce travail préalable donc auprès de l'autorité ministérielle, donc notamment le ministère en charge donc de l'emploi, pour que la législation prenne en compte, n'est-ce pas, ce métier-là. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a des gens qui y vivent, ça brasse beaucoup de personnes, etc. Donc, il faut chercher donc à réglementer de ce point de vue, et puis ensuite, le reste viendra.
Jusqu'à présent, depuis mon propos, je n'ai jamais dit que être blogueur était un métier. J'ai bien parlé d'activité, en fait. Donc, pour dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a l'aspect financier. On ne peut pas se leurrer. Aujourd'hui, il y a l'aspect financier à prendre en compte, mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore un métier. C'est vrai qu'on réfléchit à la question pour voir quels sont les moyens qu'on peut mettre en place justement pour pouvoir régulariser cette activité-là. Et je voulais aussi compléter, parce que tout à l'heure, ça a été soulevé le cas de la ACA. Qu'est-ce que la ACA pourrait faire pour encourager la lutte contre les fake news? Je pense que la ACA a mis en place avec la charte des réseaux sociaux. Aujourd'hui, en tant que créateur de contenu, vous adhérez à la charte, ils vont sur vos différents réseaux sociaux, ils évaluent le contenu que vous faites. Lorsqu'ils estiment que votre contenu est sain et vous êtes un créateur assez conscient qui produit du contenu de qualité, on vous délivre une attestation de responsabilité numérique. Donc voilà une mesure qui est mise en place aussi pour encourager les créateurs de contenu à éviter tout ce qui est fake news. Et nous, au niveau de l'association des blogueurs, on encourage vraiment nos membres à adhérer à cette charte-là afin qu'on puisse vérifier leur contenu. La majorité l'ont fait et plusieurs ont eu leur attestation de responsabilité numérique. Donc, je voulais compléter avec ça.
Déconstruire la désinformation sur les réseaux sociaux, c'est le thème de notre émission débat de ce jour, Démocratie en progrès. Et je suis donc en compagnie de M. Lassina Sermé, président du Répressi. Je suis en compagnie de M. Stony, qui est influenceur, de Mme Rita Kwamina, qui est la présidente de l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire, de M. Donatien Kanga, qui est enseignant-chercheur à l'ISTC. Je suis en compagnie également de M. Gérard Guédégué, qui est journaliste d'investigation, spécialiste en communication et en développement. Je suis également en compagnie de M. Sui Kaofi, qui est fact-checker. M. Sui Kaofi, au-delà de tout, comment on peut reconnaître une information juste d'une information fausse?
M. Donatien dit quelque chose de très intéressant, et c'est la technique qu'on utilise au niveau du Répressi, parce que je suis membre également de cette organisation. C'est la technique qu'on utilise pour rendre la lutte contre la désinformation accessible aux étudiants, aux élèves. On a commencé une grande campagne depuis pratiquement 2 ans qui nous a permis de sillonner les écoles de Côte d'Ivoire. Et ce qu'on propose d'abord, c'est quoi l'information? Ça, c'est le béaba. Une fois que vous expliquez à quelqu'un c'est quoi l'information, vous lui donnez les critères de l'information, la définition de l'information, le reste vient de soi. C'est-à-dire qu'une fois il sait c'est quoi une bonne information, pour savoir c'est quoi une mauvaise information, automatiquement, et c'est la technique qu'on utilise, qui est le PAS, donc le pas sur les réseaux sociaux, qu'on a développé, et c'est une technique qui permet, même aux citoyens lambda, à l'enfant depuis l'école, de pouvoir reconnaître une fausse information. Et moi, je dis aujourd'hui, lorsqu'on est dans cet univers, blogueur, influenceur, journaliste, on a comme une approche de traitement professionnel de l'information. C'est pas celui qui est sorti avec bardé de diplôme de l'université qui devient de facto le professionnel de l'information. Du moment où vous touchez à cette matière-là, vous commencez à professionnaliser le traitement de l'information. Que ce soit les blogueurs, les influenceurs, Stony a dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Il dit, je vérifie. C'est-à-dire, quand je vois une information, je vérifie. On vérifie comment? Mais c'est d'aller à la source de l'information. On vous dit tout simplement que la compagnie ivoirienne d'électricité a augmenté le prix du kilowattheure. Mais qu'est-ce que vous faites? Pour déconstruire ou vérifier cette information, vous appelez simplement la compagnie qui est en charge de l'électricité. Quand on vous dit que le prix du carburant a augmenté, mais qui vous appelez? C'est le ministère qui est en charge des hydrocarbures, c'est le ministère qui est en charge du commerce. Donc, il y a une manière très facile de recouper cette information et c'est la technique que les journalistes utilisent. Maintenant, j'ai coutume de dire que beaucoup de personnes voient un peu le fact-checking comme le médecin après la mort. Mais moi, je dis qu'on vient quelque part renforcer l'aspect d'éducation du citoyen. Parce qu'un papier de fact-checking, il y a toujours cette dimension d'éducation à l'intérieur d'un papier de fact-checking. Et je tiens à le rappeler, souvent on a l'impression que les fact-checkers, c'est des gens qui sont un peu impolis, ils contredisent les chefs d'État, ils disent aux gens qui sont des menteurs. Non, le papier de fact-checking ne consiste pas à dire que quelqu'un ment ou quelqu'un ne dit pas la vérité. Il n'y a pas de fact-checking à charge ou à décharge. Là où se trouve une fausse information, le fact-checker a l'obligation de déconstruire cette fausse information, que ce soit une vidéo, un audio et que ce soit du texte. Donc, ce sont des techniques qu'on utilise. Il y a des outils numériques, par exemple Google Lens qui vous permet de faire une recherche par image inversée, InVid qui vous permet de faire le traitement d'une vidéo. Il y a autant d'outils techniques, mais la vérification est avant tout traditionnelle. Aller à la source de l'information pour ne pas, justement, publier une fausse information qui sera déconstruite et on aura l'impression que, comme on dit dans le milieu des journalistes, le chien a mangé chien. Voilà, on dit chien mange pas chien, mais là où il y a une mauvaise information, c'est du devoir du fact-checker d'aller déconstruire cette information. Connaître la définition de la vraie information et ses critères pour pouvoir reconnaître la fausse information.
Alors, messieurs les chercheurs Gérard et Donatien, cette question, je vous la pose. Comment on peut rendre efficace ce combat contre la désinformation quand un gros lot de citoyens utilisent, manipulent les informations, produisent des contenus, mais n'a pas accès à la formation, à l'information? Comment on peut gérer ça pour rendre efficace notre combat contre la désinformation? On va aller avec vous, Gérard.
Je pense que vous touchez le nœud du problème, parce que même en venant ici, j'y réfléchissais. Je dis, le problème, c'est que nous avons nos parents, excusez-moi, qui sont pas allés à l'école, qui peuvent avoir un téléphone et qui peuvent prendre 200 francs de crédit et avoir accès à Internet. Quelqu'un peut leur montrer comment on fait de l'audio par WhatsApp. Et aussi simple que ça, cette personne peut devenir une blogueuse ou un blogueur de circonstances. Et comme vous l'avez dit, en fait, la question des plateformes numériques, c'est que, comme nous l'avons dit, elles sont venues pour désacraliser l'espace ou bien la production de l'information. Et tout le monde veut jouir de cet espace et de jouir de ce droit d'être informé, mais aussi d'informer. Ça fait une joie pour, excusez-moi, une maman du quartier d'écrire quelque chose que tout le monde peut écouter au marché. Peu importe le contenu. Et ça fait que la propagation des fake news se font beaucoup plus par le biais de cela, parce que elle colporte peut-être les rumeurs ou bien même les mensonges qu'elle trouve, intéressantes pour être écoutées par les femmes du marché. Le gros problème est là, je n'ai pas de réponse, mais j'estime que la question de comment on appréhende un tout petit peu les personnes qui, comme nous, n'ont pas eu la chance peut-être de comprendre un peu le protocole expliqué par le spécialiste. Moi, j'estime qu'on a besoin beaucoup plus de les remettre dans le champ même des risques que ces personnes-là courent en faisant ce genre d'exercice. C'est bien d'exercer cette liberté-là d'informer comme vous voulez, mais lorsque vous posez la question de le roi a été empoisonné et que c'est propagé et que vous êtes la source et que vous êtes repérable, quel risque vous courez? À partir de ce moment, la personne qui voudra même faire usage de cette liberté va commencer par se poser des questions. Comme l'a dit quelqu'un, il ne sert à rien d'enseigner aux gens de ne pas mentir. Quand ces personnes-là auront enduré les conséquences d'un mensonge dans des procédures pénales et autres, vous n'avez plus besoin de leur dire de ne plus mentir. Prochainement, ils ne mentiront plus. Donc, je veux dire que pour nos populations, il faut davantage qu'on mette l'accent sur le risque plutôt que de leur enseigner les protocoles qu'ils ne pourront pas maîtriser et qu'ils ne pourront pas peut-être le temps d'apprendre, je veux dire. Donc, davantage sensibiliser sur les risques, comme j'ai dit, d'instabilité, les risques même de s'attirer soi-même des problèmes, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on réprime cette diffusion de fausses informations sur Internet. Je pense qu'à partir de ce moment, on peut peut-être leur montrer que tout n'est pas bon à dire et que même pour dire quelque chose que vous avez appris, il faut essayer de savoir si la personne qui a entendu a bien entendu peut-être demander à la personne, est-ce que j'ai bien entendu ? C'est ce que tu as dit avant peut-être de passer ça à une autre personne. Donc, la question du relais de l'information va jouer un rôle important. Moi, je pense que nous, les médias, nous avons un rôle de plus en plus, je veux dire, important. Parce qu'encore une fois, la société fait confiance au pouvoir du journaliste d'être l'ingénieur de l'information. Nous sommes dans l'ingénierie. Donc, c'est une certification presque naturelle même, conférer aux médias d'être ceux qui sont la source crédible. Pourquoi est-ce que, au risque de quoi devrions-nous encore être maintenant ceux qui sont les fossoyeurs de cette information? Donc moi, je pense que les organisations professionnelles, moi j'ai beaucoup foi aux organisations professionnelles. Pourquoi? Parce que j'estime que les organes régulateurs, même le ministère, ne pourra pas faire autant le ménage que peuvent faire les organisations professionnelles. C'est pourquoi moi, j'encourage le travail des organisations professionnelles. Et moi, mon combat, c'est de faire en sorte qu'il y ait même plus de fact-checking dans les rédactions. Parce qu'en réalité, si le travail est bien fait, eux, ils pourront s'intéresser maintenant aux gros lots, c'est-à-dire les politiques, les grands groupes économiques qui nous créent des problèmes en manipulant la masse. Et la rédaction pourra faire son travail de vérification. C'est aussi banal, on ne fait pas autre chose. La discipline du journaliste, c'est une discipline de vérification. Et nous l'avons laissée. Et aujourd'hui, les fact-checkers viennent nous embêter. Ce n'est pas de leur faute, c'est de notre faute.
Donatien Kanga, sur la même préoccupation, comment s'occuper de la grande masse de personnes qui a accès aujourd'hui à Internet, puisqu'ils sont à la fois, comme on l'a dit, consommateurs et producteurs aussi de contenu?
C'est l'éducation aux médias. Après, c'est vrai qu'on peut se battre sur le contenu, mais il y a une urgence pour la société actuelle à s'engager dans l'éducation aux médias, parce que nous sommes une société de l'information. Aujourd'hui, l'information est venue à nous. L'information n'est plus rare. Donc, il faut éduquer tous les citoyens à pouvoir avoir un rapport sain vis-à-vis de l'information. Donc, ça prend en compte de comprendre, de prendre conscience que quand je fais une note vocale dans un groupe WhatsApp de peut-être 30-100 personnes, même si je suis seul derrière mon téléphone, c'est comme si je suis dans un amphi. C'est ça. Ce que je ne pourrais pas dire lorsqu'on me tend le micro devant 100 personnes en présentiel, pas que je l'annonce via WhatsApp, parce que je suis simplement derrière mon téléphone. Donc ça c'est un enjeu, c'est une urgence. Ensuite, la lutte contre la désinformation, pour être efficace, ne doit pas seulement rester sur des angles. Il y a plusieurs axes qu'il faut attaquer. On a parlé du fact-checking en termes de production. Il faut encourager le travail du fact-checker. L'aîné Gérard propose même qu'on généralise dans les rédactions. Il faut renforcer ça. Il faut faire de la régulation, comme on le voit en ce moment avec la justice qui est très proactive, visiblement, avec la législation qui a été développée depuis 2012, même les premières lois. Il faut le faire, mais en même temps, il faut aussi faire de l'autorégulation pour pouvoir équilibrer, de sorte qu'on n'ait pas à observer des abus qui transforment ce qu'on poursuit en des matis. Parce que c'est ça, le risque, quand on n'a pas d'équilibre dans cette façon de déployer la régulation, ceux qu'on attrape deviennent des matis et se transforment en des héros. Et finalement, l'opinion trouve qu'en fait, ils sont victimes du pouvoir. Donc, il faut que l'autorégulation suive, sinon même dévance, la régulation, de sorte que, comme il a dit, quand la régulation intervient, c'est vraiment pour des cas d'une certaine gravité évidente, de sorte qu'il n'y a pas de débat. Et puis, il y a le rôle des plateformes numériques qu'il faut pousser. C'est vrai qu'à titre individuel, à l'échelle de nos États, ça peut être difficile, mais je pense qu'il y a une collaboration régionale, institutionnelle qu'il peut avoir pour amener les plateformes à assumer leurs responsabilités. Les plateformes sont souvent très flexibles, très légères, dans la mise en lumière ou dans le retrait des contenus reconnus comme désinformationnels. On va se contenter simplement d'un bandeau pour dire que non, ce contenu a été fact-checké et autres. Mais il continue de circuler et vous reconnaissez que le contenu est faux. Mais pourquoi il circule? Retirons-le. Donc, il y a à pousser les plateformes à assumer leurs responsabilités d'éditeurs dans une certaine mesure. Parce que si vous prenez un réseau social comme Facebook qui refuse de se considérer comme éditeur, mais Facebook, c'est quasiment la plus grosse maison de rédaction au monde qui, chaque matin, n'a pas besoin de payer des gens qui sont prêts à prendre des photos, à collecter des infos et à venir partager sur son truc. Donc, il y a une certaine responsabilité en tant que propriétaire de l'infrastructure à faire un effort plus volontaire, voilà, plus volontariste dans la régulation et ne pas s'asseoir pour dire non, nous on a donné l'infrastructure, c'est aux utilisateurs d'être responsables et autres. Je trouve que c'est un peu une forme de politique de l'autruche que ces plateformes-là font. Nous, pour les pays africains, nous sommes trop fragiles pour qu'on nous laisse ce genre de situation. On n'a pas la résilience des États comme des Américains, quoique des Européens, parce qu'on voit ce que ça... Ce qui se passe souvent aux États-Unis, en Europe et autres, en termes de désinformation, je me dis, si la moitié même se passe dans nos pays tombent en faillite. Voilà. Donc, voilà un peu, pour résumer un peu sur la question, comment est-ce qu'on peut toucher l'ensemble.
Kaoufi, suis.
Moi, derrière ce que je préconise, et c'est ce que j'ai toujours dit, il faut éduquer. Une population qui est éduquée à comprendre c'est quoi l'information et pourquoi il est dangereux de partager cette information, je ne pense pas que le régulateur, le procureur sera toujours en train de veiller sur Meta pour pouvoir récupérer ces personnes-là. Une société bien éduquée, moi je pense quelque part que c'est une société qui est moins désinformée et qui participe un peu plus à la construction de la démocratie, parce que l'accès à l'information, la liberté d'expression sont des piliers de la démocratie. Si ces piliers-là sont gangrénés par la désinformation, le citoyen ne peut donc plus jouer son rôle d'acteur de la démocratie.
Merci beaucoup à tous. Je rappelle que le thème de notre émission Démocratie en progrès était « Déconstruire la désinformation sur les réseaux sociaux ». J'étais en compagnie de M. Gérard Guédégbé, journaliste d'investigation, expert en communication. J'étais en compagnie de M. Donatien Kanga, expert en fact-checking, enseignant à l'Institut Polytechnique ISTC. Monsieur Lassina Sermé, journaliste, président du REPRELSI, le réseau des professionnels de la presse en ligne. Également de Madame Rita Kwamina, président de l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire, de Monsieur Stony, influenceur, et de Monsieur Sui Kaofi, il est fact-checker. Merci de nous avoir suivis et puis on vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres thèmes, pour d'autres débats sur Radio de la Paix. Merci beaucoup.
Ben Diakité.
Ce programme a été réalisé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis.
Les grands débats.
Réalisation Antoine Kouassi.
Radio de la Paix.